La croyance en Dieu était autrefois considérée comme allant de soi par beaucoup, mais de nos jours, ce n'est plus le cas. En fait, une espèce de militantisme athée a vu le jour, inspiré par des gens tels l'évolutionniste Richard Dawkins et feu Christopher Hitchens. Ces athées prétendent détenir la préséance en termes d'intelligence et de rationalité, et affirment que seuls les ignorants ou les fous peuvent continuer à croire en Dieu en cette ère moderne. Aujourd'hui, nous allons examiner trois questions courantes brandies par les athées concernant l'existence de Dieu. Et nous allons les mettre à l'épreuve. Alors rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui du Monde de Demain, quand les athées attaquent. Bonjour et bienvenue au Monde de Demain, où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder trois questions couramment soulevées par des athées concernant la croyance en Dieu. Nous allons aussi vous donner l'occasion de demander notre ressource gratuite, le Dieu réel, preuves et promesses. Veuillez noter les coordonnées pour obtenir votre exemplaire gratuit lorsqu'elles apparaîtront sur votre écran. Un athée est un individu qui ne croit pas à l'existence de Dieu, à la différence des théistes qui croient qu'il y a un Dieu, et des agnostiques qui sont incertains d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, l'opinion de Dieu sur les athées est clairement exprimée dans la Bible, comme dans le psaume 14, verset 1, où le roi David fut inspiré d'écrire « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Dieu aime tant cette déclaration qu'il la reprend dans le psaume 53. Pourtant, le point de vue de Dieu sur leur manque de sagesse n'a pas découragé certains. Au début des années 2000, le soi-disant nouvel athéisme fit son apparition, sous l'impulsion du biologiste Richard Dawkins, de l'écrivain Christopher Hitchens, du neuroscientifique Sam Harris et du philosophe Daniel Dennett, appelés par certains les quatre cavaliers du nouvel athéisme. En réalité, la seule chose nouvelle du nouvel athéisme est sa posture, plus militante, plus agressive, mais présentant les mêmes vieilles objections de l'ancien athéisme. Et nous tenons à le préciser d'emblée, il est bon de poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Mais lorsque nous le faisons, nous devons être ouverts aux réponses, même si elles ne sont pas celles que nous attendons ou celles que nous voulons entendre. Et nous devons être prêts à éprouver les réponses, surtout à une époque comme la nôtre, décrite dans la Bible comme un temps où la vérité trébuche sur la place publique. Et où les mensonges sont beaucoup plus répandus. Alors, que faites-vous lorsqu'un athée vient vous poser des questions? Eh bien, à vrai dire, vous devriez d'abord évaluer le scénario. Parfois, quelqu'un ne veut pas recevoir de réponse. Il cherche juste à marquer des points. Et même si vous répondez à ces questions, cela entre par une oreille et sort par l'autre. Pourtant, nous devrions être en mesure de répondre. Et l'apôtre Pierre encouragea les chrétiens au 1er siècle à s'assurer qu'ils étaient prêts à le faire au mieux de leur capacité. Au chapitre 3 et au verset 15 de sa première épître, Pierre écrit aux chrétiens « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et vraiment, être prêt pour cette défense n'est pas pour le seul bien de votre inquisiteur. Vous devez savoir par vous-même que Dieu existe, qu'il est réel et qu'il intervient tant dans les affaires de ce monde que dans votre vie. Alors, comment répondez-vous lorsque quelqu'un remet en question votre foi en Dieu? Pour le reste de l'émission de ce jour, nous examinerons trois questions courantes posées par les athées. Voici la première. Si Dieu a tout créé, qui donc a créé Dieu? Nous commençons par celle-ci, car elle est brève. Ceux qui posent cette question commettent une erreur classique. Le monde qui nous entoure, toute la matière, l'espace et l'énergie, a eu un commencement. La science la plus récente et les lignes de recherche les plus rationnelles s'accordent sur ce point. L'univers et toute la matière, l'espace, le temps et l'énergie qu'il contient ont dû avoir un commencement, que ce commencement soit le fameux Big Bang ou autre chose. Et ayant un commencement, cet univers se devait d'avoir une première cause. Mais Dieu n'a pas eu de commencement. Il ne fait pas partie de ces choses conçues. Et n'ayant pas de commencement, il n'a pas besoin de créateur. La Bible établit clairement cette distinction dans Jean chapitre 1 et au verset 3. En parlant de la parole par laquelle le Père créa toutes choses, Jean écrit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Il y a les choses qui ont été créées, et il y a un Dieu qui existe depuis l'éternité. Avant et en dehors de ces choses créées, le monde qui nous entoure, la matière, l'espace, le temps et l'énergie, a eu un commencement, et par conséquent, il doit avoir une cause, une raison pour laquelle il existe. J'aime citer le personnage de Maria, joué par Julie Andrews, dans la mélodie du bonheur à ce sujet. Rien ne vient de rien, rien ne le pourrait jamais. Par conséquent, il doit y avoir une cause pour l'univers qui existe en dehors de la matière, de l'espace, du temps et de l'énergie de l'univers. Une cause intemporelle qui précède toute matière, tout espace et toute énergie. Et Dieu correspond à cette description. Et se demander qui a créé Dieu, c'est mal comprendre ce qu'est Dieu et qui il est. Nous pouvons résumer la réponse « personne ». Contrairement à l'univers physique, Dieu est éternel et n'a pas eu de commencement. Ceux qui posent cette question comprennent mal ou déforment la signification même du mot « Dieu ». En fait, vous pourriez ajouter, en l'absence d'une entité correspondant à la description de Dieu, il n'y aurait pas d'univers du tout. Ce dernier point est important, car les athées accusent parfois les croyants de se cacher derrière un Dieu des lacunes, c'est-à-dire qu'ils prétendent voir les croyants utiliser uniquement les lacunes dans les connaissances scientifiques comme preuve de l'existence de Dieu, mais qu'au fur et à mesure des lacunes comblées, les preuves de l'existence de Dieu s'évaporent. Pour illustrer ce point, on pourrait imaginer que quelqu'un ignorant le fonctionnement du cycle de l'eau ici-bas pourrait croire qu'un être divin a créé la pluie à partir de rien. En conséquence, la pluie devient une preuve de l'existence de Dieu. Puis lorsque les scientifiques découvrent le cycle de l'eau, cette preuve s'évapore, comme une flaque d'eau peu profonde sur le trottoir lors d'une journée de forte chaleur. C'est le faux argument du Dieu des lacunes auquel beaucoup d'athées pensent lorsqu'ils posent la question suivante. Pourquoi avons-nous besoin de Dieu si l'évolution explique tout ? Après tout, l'évolution constitue le dogme scientifique du moment. Il est considéré par beaucoup comme l'une des plus belles réussites de la science et du raisonnement humain. Alors, si l'évolution explique vraiment tout, pourquoi avons-nous besoin de Dieu ? Pour répondre à cette question, nous devons reconnaître au moins trois erreurs révélées par la question même. Premièrement, la théorie de l'évolution n'explique pas tout. Elle n'explique pas l'origine de l'univers, les lois de la physique et des mathématiques, la conscience, la moralité objective. La liste des choses pour lesquelles un Dieu transcendant reste la meilleure explication est longue. Quand les athées disent que l'évolution explique tout, ils veulent généralement dire qu'elle explique la vie, et je comprends que quelqu'un y soit sensible. L'existence de la vie sur la planète Terre exige sans aucun doute une sorte d'explication. Mais l'évolution l'explique-t-elle ? C'est la deuxième erreur de ceux qui posent cette question. La théorie de l'évolution est loin d'être suffisante pour expliquer la merveilleuse variété de vie que nous voyons ici-bas, sans parler de l'origine de cette vie. Enfin, lorsque nous examinons honnêtement la complexité de la vie, ses systèmes interdépendants, l'ensemble des organes et des réseaux nerveux complexes qui doivent fonctionner ensemble d'une manière étonnamment coordonnée, les systèmes abstraits de codage et de vérification des erreurs de l'ADN. Là encore, lorsque nous examinons honnêtement la complexité de la vie, nous constatons que la théorie de l'évolution est loin d'être en mesure d'expliquer cette complexité coordonnée. En fait, l'idée que la théorie de l'évolution explique actuellement toutes ces choses n'est qu'une façade en général. Et il y a, en ce 21e siècle, un grand débat sur la manière de remédier les lacunes persistantes de cette théorie. Le journal britannique The Guardian a récemment rendu compte de l'agitation qui règne dans les sciences de l'évolution. Aussi étrange que cela puisse paraître, les scientifiques ne connaissent toujours pas les réponses à certaines des questions les plus fondamentales sur l'évolution de la vie ici-bas. Prenez les yeux, par exemple, d'où viennent-ils exactement ? L'explication habituelle de la façon dont nous avons obtenu ces organes stupéfiants et complexes repose sur la théorie de la sélection naturelle. Puis, après avoir résumé l'histoire habituelle de l'évolution du développement progressif de l'œil, l'article poursuit. C'est l'histoire basique de l'évolution telle qu'elle est racontée dans d'innombrables manuels scolaires et best-sellers des sciences populaires. Le problème, selon un nombre croissant de scientifiques, est qu'elle est absurdement grossière et trompeuse. D'abord, elle commence à mi-chemin de l'histoire, en tenant pour acquise l'existence des cellules sensibles à la lumière, des lentilles et des iris, sans expliquer d'où elles viennent en premier lieu. Elle n'explique pas non plus de manière adéquate comment des composants aussi délicats et facilement perturbés se sont assemblés pour former un seul organe. Et il n'y a pas que les yeux qui posent problème à la théorie traditionnelle. Le premier œil, la première aile, le premier placenta, comment ils émergent ? Les expliquer est la motivation fondamentale de la biologie évolutive, déclare Armin Motzek, biologiste à l'université de l'Indiana. Et pourtant, nous n'avons toujours pas de bonne réponse. Cette idée classique de changement progressif, un heureux accident à la fois, est jusqu'à présent tombée à plat. En fait, on pourrait même dire si la mutation aléatoire et la sélection naturelle ont réellement créé toute la vie sur Terre, alors l'évolution devrait être une preuve que Dieu existe vraiment. Car avec tous les bons géants, coordonnés et improbables de l'évolution, elle devrait faire appel par nécessité à un être divin pour l'aider. Il semble que, pour soutenir leur propre croyance, ce sont plutôt les évolutionnistes qui ont tendance à dépendre d'un dieu des lacunes, ou peut-être d'un Darwin des lacunes. En réalité, la complexité de la vie plaide de façon positive et avec force pour une source intelligente à l'origine de sa création. Seule l'intelligence a été identifiée comme étant capable de créer des structures aussi compliquées et orientées vers un but précis comme celles que nous voyons dans les formes de vie les plus simples. Faire appel à l'existence et à l'action de Dieu pour expliquer la vie n'est pas se cacher derrière un Dieu des lacunes. Au contraire, la conception intelligente, présente dans toute vie, est une preuve positive de l'existence d'une intelligence à la source de la vie. Si l'athée veut éviter la conclusion que Dieu existe, la théorie de l'évolution n'est pas une retraite suffisante. La troisième opposition courante que vous pourriez entendre de la part d'un voisin ou d'une connaissance athée est généralement accompagnée d'une charge émotionnelle. Comment Dieu peut-il être bon s'il y a tant de mal dans le monde ? Bien sûr, l'histoire enregistre certainement de nombreux grands méfaits. L'Holocauste infligé aux Juifs, la famine que les Soviétiques ont imposée aux Ukrainiens dans les années 1930 et l'esclavage dans les États du Sud en Amérique du Nord avant la guerre civile ne sont que quelques exemples. Et pour beaucoup de nos téléspectateurs, la présence du mal dans le monde les touche personnellement. Beaucoup d'entre vous ont été volés, agressés ou maltraités. Il n'y a pas à dire, notre monde est rempli de méchanceté. Mais si c'est le cas, demande l'athée, comment Dieu peut-il être bon ? Après tout, pourquoi un Dieu bon permettrait-il de telles souffrances ? Est-il trop faible pour les arrêter ? Ou ignore-t-il la simple existence du mal ? Si c'est le cas, alors il n'est pas vraiment Dieu. S'il est tout-puissant et omniscient, et s'il ne fait rien, alors les athées prétendent qu'il n'est pas bon. Et de fait, il n'est pas vraiment Dieu de cette façon non plus. Ils affirment en soulevant ce dilemme qu'il n'y a pas de Dieu omniscient, tout-puissant et bon pour commencer. Alors, que faire de cet argument ? Il est intéressant de constater à quel point l'humanité est prompte à rejeter sur Dieu la responsabilité de ses propres fautes. Et franchement, c'est le diable qui est à l'origine de ce raisonnement. Il est intéressant de constater que lorsqu'Adam et Ève péchèrent pour la toute première fois en désobéissant à Dieu, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la première chose qu'ils firent fut de blâmer quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu les interpella à ce sujet, nous lisons leur réponse dans Genèse chapitre 3. L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit : « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ainsi, Adam blâma Ève et Ève blâma le diable. En fait, si vous y regardez de plus près, Adam blâma Dieu. Remarquez ses reproches. « La femme que tu as mise auprès de moi. » Et depuis, les êtres humains continuent à blâmer Dieu pour le mal dont l'humanité est responsable. Considérez les mots mentionnés plus tôt. L'Holocauste, la cruauté des Soviets, et l'esclavage, ou d'ailleurs les vols, les agressions ou les maltraitances, ce sont des actions maléfiques infligées par des êtres humains. C'est à ces êtres humains qu'il faut en attribuer la responsabilité. Toutefois, la question demeure, pourquoi Dieu permet-il à ces êtres humains de commettre le mal? Une partie de la réponse est fondée sur la nécessité des êtres humains de disposer du libre arbitre, ce qui doit inclure la capacité de décider de faire le mauvais choix. Le dessein de Dieu à notre égard pour nous exige de croître en caractère, plus précisément d'apprendre à posséder le caractère inhérent à Dieu, pour choisir le bien et résister au mal. Croître en caractère exige la capacité de faire des choix basés sur le libre arbitre, ce qui inclut la possibilité de choisir le mal et de causer de la souffrance, mais aussi la possibilité de choisir le bien, même en endurant la souffrance. Lorsque vous connaissez le plan de Dieu, vous arrivez à comprendre que le bien éternel que Dieu est en train de réaliser par son plan de développer son propre caractère juste chez les êtres humains est d'une telle importance qu'il l'emportera sur tout mal commis ou expérimenté par l'humanité. En fait, l'apôtre Paul affirme exactement cela dans Romains 8 et au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Remarquez bien, les souffrances actuelles que nous subissons, elles ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. En fait, Paul déclare aussi que la création elle-même souffre et qu'elle sera délivrée lors de ce jour glorieux à venir. L'une des malédictions du péché de l'humanité dans le jardin d'Éden est que nous avons retiré à Dieu le rôle de gardien de la création, comme si nous pouvions tout gérer nous-mêmes sans lui. Dans Genèse 3, des versets 17 à 19, Dieu expliqua à Adam que la création ne s'assujettirait plus à l'homme de manière complaisante, mais qu'elle suivrait son propre cours. L'humanité doit apprendre la pleine leçon dont elle a besoin de Dieu. Tenter de construire un monde sans lui ne mène qu'à la souffrance, car nous sommes alors laissés vulnérables aux affections de la nature, à nos propres maux et aux manigances et persécutions du diable. Si vous êtes parent, vous comprenez ce bienfait de Dieu si vous y réfléchissez. Combien de fois les parents doivent-ils permettre à un enfant de faire l'expérience de ses propres mauvais choix avant de savoir que la leçon sera retenue? Eh bien, dans le cas de Dieu, il n'enseigne pas seulement un enfant, mais littéralement toute l'humanité. Et les leçons doivent avoir un impact pour l'éternité. L'enjeu de ces leçons ne pourrait être plus élevé. Pourtant, nous avons la promesse de Dieu qu'au moment du rétablissement de toutes choses, la gloire qui se révélera au travers des enfants de Dieu éclipsera de loin tout mal jamais commis et toute souffrance jamais vécue, de sorte qu'ils disparaîtront de nos esprits pour toujours. Nous devrions tous prier pour la venue rapide de ce temps. Donc, pour résumer la réponse à cette troisième attaque, le mal dans le monde est une conséquence des mauvais choix de l'homme. Pourtant, Dieu utilise nos choix pour atteindre un bien éternel qui dépassera de loin toutes les souffrances connues de l'humanité. Si vous cherchez à connaître le Dieu de la Bible, si vous êtes prêt à mettre de côté vos idées préconçues, vos désirs et vos perspectives égoïstes, si vous êtes disposé à adopter le mode de vie de Jésus-Christ, ordonné à ceux qui le suivent, alors vous pourrez être convaincu de l'existence du Dieu qui inspira cette Bible. Vous commencerez davantage à constater dans votre vie, jour après jour, les résultats de vos choix, et ces résultats deviendront des preuves puissantes de l'existence de Dieu. Et cela peut vous fortifier, comme peu de choses peuvent le faire, et vous permettre de vous tenir debout, fort et droit, lorsque vous êtes confronté à des athées. Tout comme Dieu nous met au défi dans Malachie 3, verset 10, de le mettre à l'épreuve en lui obéissant, je vous mets au défi aujourd'hui de faire de même. Vous ne le regretterez pas. Si vous souhaitez en savoir plus, n'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de notre brochure intitulée « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, c'est aussi simple que cela. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.